Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle analyse approfondie.
Bonjour.
C'est vraiment toujours un moment privilégié de retrouver notre public pour une plongée inédite au cœur des sources.
C'est vrai que c'est toujours un plaisir.
La mission d'aujourd'hui s'annonce particulièrement captivante. L'objectif de cette session, c'est d'explorer l'évolution fascinante d'un bâtiment emblématique.
Un édifice qui en fait dépasse largement son simple statut de brique et de mortier.
Exactement. Il se dresse comme un véritable témoin de l'histoire locale, de l'histoire sociale et même de l'histoire architecturale française. Le voyage temporel qui s'annonce promet d'être riche en rebondissements.
À ça, je suis certaine que l'angle choisi pour aborder cette histoire rend la démarche extraordinairement vivante.
Oui, clairement.
On ne parle pas de concepts abstraits aujourd'hui, mais bien de la vie quotidienne, la vie palpable d'une communauté entière sur plus d'un siècle.
Tout à fait. Mais alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est impératif d'établir un cadrage très strict.
Oui, le cadrage des sources.
C'est ça. Cette analyse se fonde exclusivement sur un article très précis et pour le coup extrêmement détaillé intitulé « La maison du peuple de Milo ».
Un excellent papier.
Publié dans le bulletin numéro 34 du Cartoclub Aveyronnais.
Un bulletin daté de juin 2007, il faut le préciser.
Absolument. Juin 2007. Et avant même d'en résumer la moindre ligne, il est fondamental de saluer le travail d'orfèvre qui s'y trouve. L'auteur de cet article richement documenté n'est autre que Pierre Costecalde.
C'est important de le nommer explicitement. Son approche minutieuse des archives est vraiment la colonne vertébrale de toute notre réflexion d'aujourd'hui.
Sans lui, on n'aurait pas toute cette matière. Et il est tout aussi crucial de citer Guy Mazars.
Ah, Guy Mazars, oui.
Son rôle a été absolument déterminant dans la réalisation de ce bulletin. Il en est le rédacteur en chef, bien sûr, mais également le concepteur de la maquette.
Et c'est un point essentiel, parce que la façon dont l'information visuelle et textuelle est structurée dans cette publication...
Elle est remarquable, non ?
Totalement remarquable. La mise en page met en lumière les documents d'époque d'une manière qui rend l'analyse historique beaucoup plus percutante.
C'est clair. Le cadre étant posé, l'exploration de ce pan d'histoire peut commencer.
Ce qui est fascinant ici, c'est de réaliser à quel point un simple empilement de pierres peut en réalité raconter un siècle de passions humaines.
Des décennies d'histoire.
Oui, des luttes ouvrières, des célébrations et de véritables métamorphoses urbaines. Et toute cette mémoire nous est livrée par le prisme d'un support visuel exceptionnel.
Les fameuses cartes postales.
Exactement, des cartes postales anciennes. Cette documentation iconographique permet de suivre l'évolution des lieux et des usages avec une justesse que de simples descriptions textuelles peineraient vraiment à égaler.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour saisir la genèse de cet endroit, le point de départ nous ramène à l'année 1903.
1903, le tout début du XXe siècle.
La ville de Millau est alors sous l'administration du docteur Bompère.
Le maire de l'époque.
C'est ça, le maire. C'est sous sa présidence que le conseil municipal prend une décision d'urbanisme majeure, la construction d'une salle de spectacle.
Mais attention, le projet ne vise pas une petite structure de quartier modeste.
Ah non, pas du tout. L'ambition est immense. Il fixe une jauge à 1000 personnes.
1000 personnes, Une capacité de 1000 places au tout début du XXe siècle dans un centre urbain comme Milo, ça relève d'une volonté politique extrêmement forte.
C'est colossal pour l'époque.
C'est un signal clair. Ça indique que la municipalité souhaite doter la cité d'un pôle d'attraction majeur, un véritable lieu de convergence capable d'accueillir des événements d'envergure.
Pour concrétiser cette vision un peu monumentale, le choix se porte sur un architecte millevois.
Étienne Lacure.
Étienne Lacure, tout à fait. Et le choix de l'emplacement n'est pas laissé au hasard. Il est même lourd de sens, on peut le dire. L'édifice va s'élever sur l'emplacement précis des anciens jardins de l'hôtel de Monsieur de Pégaillerolles.
Un bâtiment privé à l'origine.
Oui, mais qui avait déjà connu une transformation institutionnelle puisqu'il abritait l'hôtel de ville depuis 1856.
C'est un détail géographique important.
Et la façade principale de ce nouveau projet est orientée pour donner majestueusement sur le boulevard Saint-Antoine. C'est là que la documentation visuelle devient incontournable dans le bulletin.
Ah, les images parlent d'elles-mêmes.
Totalement. La toute première carte postale ancienne illustrant l'article, la CPA numéro 1, offre une vue éclatante du bâtiment originel.
On y observe très distinctement une symétrie architecturale.
Oui, avec deux ailes qui encadrent le corps central. C'est très frappant sur la photo. L'une de ces ailes était destinée à abriter la maison des syndicats.
Et l'autre était dévolue à la mutualité.
C'est ça. On remarque aussi sur cette CPA numéro 1 les allées latéraux. Elles sont pourvues d'escaliers assez monumentaux qui conduisaient directement à la tribune.
L'intégration dès la conception de la mutualité et de la maison des syndicats dans les ailes mêmes d'une salle de spectacle...
C'est audacieux.
Très audacieux, oui. Ça montre bien la nature hybride du projet. Ce n'était pas un théâtre bourgeois isolé de la réalité sociale.
Pas du tout.
C'était une véritable tentative d'unir la culture, l'entraide et la représentation ouvrière, le tout sous un même toit.
Une intention très louable, assurément. D'ailleurs, la CPA numéro 2 ajoute une petite touche d'atmosphère d'époque assez savoureuse.
Ah oui, cette fameuse carte numéro 2.
Sur ce cliché, juste devant la façade richement ornée, on voit un curieux véhicule léger à quatre roues.
C'est très amusant à observer.
Il semble s'agir d'un engin motorisé des tout premiers temps de l'automobile. Il est sagement stationné là. Ce détail ancre immédiatement l'édifice dans cette ère de progrès industriel et technique naissant.
On s'y croyait presque.
Pourtant, la naissance de ce fleuron local a été très loin d'être un long fleuve tranquille.
Oh que non! La controverse a effectivement été très vive à l'époque.
Qu'est-ce qui a coincé exactement?
Eh bien, le ressentiment d'une partie de la population s'explique par la nature même du terrain sacrifié pour la construction.
Les jardins de l'hôtel de ville?
Voilà. Ces jardins n'étaient pas de simples parcelles vacantes. Les habitants les avaient affectueusement baptisés le jardin des pauvres ou encore le jardin du peuple.
Ah, je vois le problème.
C'était l'un des rares espaces verts publics accessibles à tous. Un lieu de promenade et de respiration au cœur de la zone urbaine. La construction a nécessité l'abattage de très nombreux arbres centenaires.
C'est terrible pour les riverains.
Et ça a logiquement été perçu comme une spoliation par les classes populaires de Millau.
Détruire le jardin du peuple pour y construire la maison du peuple.
C'est assez ironique.
L'ironie de la situation n'a sans doute échappé à personne à l'époque.
Surtout que les critiques trouvaient un écho d'autant plus grand que le projet a rapidement souffert de défauts techniques majeurs.
Des malfaçons?
Pas exactement des malfaçons, mais des problèmes de conception liés au terrain. Pour implanter ce bâtiment très massif, la construction a dû être adossée à un vaste terre-plein.
D'accord.
Et cette configuration géographique a engendré un problème chronique, une humidité persistante, très envahissante.
Le cauchemar pour un bâtiment de ce type.
Les murs suintés, l'atmosphère de la salle s'en ressentait lourdement, les esprits grincheux qui étaient déjà amers face à la perte de leur jardin.
Ils ont dû s'en donner à cœur joie.
Complètement. Ils ont promptement rebaptisé ce monument tant vanté la cave du peuple.
La cave du peuple, oui. Une appellation sarcastique qui devait résonner bien fort dans les rues de Millau.
C'est certain.
Finalement, après ces épisodes houleux, la réception définitive du bâtiment s'opère en novembre 1905. L'édifice est alors très officiellement baptisé « Maison du peuple, théâtre municipal ».
Un double nom qui résume bien ses fonctions.
Et malgré ce faux départ et cette humidité, la cave du peuple va progressivement se muer en un véritable cœur battant de la culture et du divertissement.
Le lieu trouve enfin son public?
Totalement. La période qui suit l'inauguration s'apparente vraiment à un âge d'or. Les sources décrites par Pierre Costecalde nous dépeignent une vie culturelle d'une richesse foisonnante.
Les images de Guy Mazars illustrent ça parfaitement.
Oui, les cartes postales numéro 3 et 4 dévoilent l'intérieur du théâtre dans toute sa splendeur.
Et puis il y a la carte numéro 5.
La fameuse numéro 5.
Elle immortalise de grandioses représentations d'opéra. La diversité des activités programmées donne presque le vertige.
Il s'y passait beaucoup de choses.
On y applaudissait des opérettes, on s'y pressait pour participer aux fameuses quines.
Les lotos locaux, c'est ça. On y dressait aussi de longs banquets pour les repas des vieux et on y célébrait les arbres de Noël rassemblant les écoles de la commune.
Si l'on relie cela au contexte global des premières décennies du XXe siècle, l'importance vitale de ces rassemblements prend toute son ampleur.
C'était central dans la vie des gens.
En l'absence de loisirs numérisés ou de divertissements individuels à domicile, comme on les connaît aujourd'hui, un théâtre municipal de cette taille structurait littéralement le temps social de la cité.
Il n'y avait pas la télévision ou Internet, quoi.
Exactement. Les liens communautaires, le maillage intergénérationnel, tout se tissait physiquement à l'intérieur de ces murs. C'était le ciment de la communauté.
Et l'apogée de cette vie communautaire se manifestait lors des fameux bals populaires, organisés tous les samedis soirs durant la mauvaise saison.
Une bonne façon de se réchauffer.
Il représentait l'exutoire parfait contre la rudesse de l'hiver avéronnais. Le grand événement incontournable de l'année, c'était sans conteste le bal de la Sainte-Barbe.
La patronne des sapeurs-pompiers.
Oui, un classique. L'article nous livre par ailleurs une anecdote vraiment délicieuse sur l'animation de ces soirées. Le tirage de la loterie pendant ces bals était confié à une figure locale emblématique, un certain Monsieur Salgue.
Son surnom est très connu dans les archives.
Tomate. Son surnom, c'était Tomate. Il est assez aisé de visualiser l'ambiance électrique quand Tomate montait sur scène pour animer la loterie.
Il devait mettre le feu à la salle.
Il intercalait les tirages avec des monologues enflammés, des scènes purement comiques et même des parodies théâtrales. Le divertissement était total et profondément ancré dans la culture populaire locale.
C'est l'essence même d'une maison du peuple.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Car si les opérettes et les pitreries de tomates rythmaient les soirées, le lieu allait rapidement justifier son appellation de « maison du peuple » d'une manière beaucoup plus littérale.
Et beaucoup plus mouvementée.
Oui. L'espace a commencé à accueillir des rencontres sportives drainant de larges foules. L'article mentionne des galas de boxe, des démonstrations de gymnastique et même des compétitions de judo.
Mais ce n'est pas tout.
Non, surtout pas. Le théâtre s'est mué en un point de ralliement névralgique pour de colossales manifestations politiques et syndicales.
Alors, il convient ici de formuler un rappel essentiel pour notre public. L'analyse de ces événements historiques s'effectue avec la stricte neutralité de l'observateur.
C'est important de le souligner.
L'objectif de notre exploration est de rapporter les mouvements sociaux et les rassemblements ouvriers tels qu'ils sont documentés par les archives et les photographies de l'époque.
Sans aucun parti pris.
Sans la moindre prise de position politique de notre part, gauche ou droite. Il s'agit simplement d'étudier la fonction organique du bâtiment dans l'évolution de la société locale.
Une précision plus que nécessaire compte tenu de l'intensité des événements qui s'y sont déroulés.
Les documents d'époque présentés dans le bulletin sont d'ailleurs d'une force visuelle très frappante.
Les photographies de ces réunions sont impressionnantes.
La description de la carte postale numéro 6 est révélatrice à ce sujet. Elle fige l'instant d'un grand meeting syndical ou politique. Le cliché révèle une salle comble, saturée jusqu'au balcon.
On ressent presque la chaleur de la pièce en regardant l'image. C'est une masse humaine impressionnante, composée majoritairement d'ouvriers, arborant la casquette ou le béret traditionnel. Quelques visages féminins apparaissent çà et là dans cette assemblée extrêmement compacte.
C'était le reflet de la société industrielle locale.
Au premier plan, l'objectif a capté le bras tendu de l'orateur s'adressant avec véhémence à la foule. Les sources mentionnent que ces réunions contradictoires, particulièrement en période d'élection, atteignaient des niveaux sonores assourdissants.
Des débats houleux, c'est le moins qu'on puisse dire.
Les esprits s'échauffaient très rapidement, provoquant parfois des mouvements de foule redoutables dans cet espace si confiné. Mais la topographie des lieux offrait une parade providentielle.
Ah oui, le petit détail logistique.
Un détail très amusant, un café était opportunément situé juste à côté du théâtre. Cette proximité permettait aux participants les plus exaltés par les débats de quitter momentanément la salle
pour aller s'hydrater
et apaiser leurs ardeurs autour d'un verre avant de retourner dans l'arène politique.
La gestion de ces foules passionnées nécessitait effectivement des échappatoires. Ce qui frappe dans ces archives, c'est la dimension extrêmement concrète de ces événements.
C'est-à-dire ?
La logistique des luttes sociales de l'époque. On est bien loin des simples discours théoriques dans un salon, on est dans l'organisation pure et dure.
Les archives postales le démontrent brillamment, c'est vrai. L'exploration visuelle continue d'ailleurs avec la CPA numéro 7. Elle est intitulée sobrement « Un coin de la salle » et documente l'occupation des lieux lors de la grande grève des gantiers de Millau.
L'industrie gantière était fondamentale dans la région.
Le corpus s'élargit ensuite pour montrer l'envers du décor syndical. La carte numéro 9 nous plonge dans les cuisines communistes.
Et il y a aussi la carte numéro 9 ?
Oui, la 9 rassemble un imposant groupe de grévistes devant la maison du peuple. Et puis la carte numéro 10 dévoile une scène de la vie quotidienne de la contestation avec l'épluchage des légumes.
C'est fascinant de voir ces détails intimes de la grève.
On y perçoit toute l'organisation de survie nécessaire pour maintenir un mouvement de contestation sur la durée. Les murs du théâtre servaient de réfectoire, de cuisine improvisée.
Une vraie base arrière logistique pour des milliers de travailleurs.
C'est face à ces témoignages visuels que le travail de documentation photographique prend vraiment une valeur inestimable, non ?
Absolument. Les sources soulignent l'importance du photographe Milavoie R. Galzin, ou H. Galzin selon les tirages, dont la signature authentifie ces clichés historiques.
Un témoignage direct de l'époque.
L'étude de ces cartes postales offre des repères chronologiques d'une précision absolue pour les historiens. L'article mentionne un détail technique fascinant d'ailleurs.
Lequel ?
L'une de ces cartes, celle illustrant les grévistes, a circulé par le réseau postal et porte un cachet oblitéré du 9 janvier 1911.
Incroyable !
Cette simple empreinte d'encre sur un bout de carton permet de corroborer formellement les dates des grands mouvements sociaux à Véronée.
Ça vient appuyer les récits de la presse locale contemporaine des faits. Le bâtiment se révèle donc être le point névralgique de toute l'expression démocratique et sociale de la ville.
Mais cette effervescence allait être brutalement interrompue.
Oui, l'histoire de la bâtisse prend une tournure résolument sombre lors de la Seconde Guerre mondiale.
La période de l'occupation ?
Durant ces années, de 1942 à 1944, l'édifice est purement et simplement réquisitionné. Sa fonction première est anéantie.
Qu'est-ce qu'ils en ont fait ?
La Wehrmacht transforme cet espace de culture et de rassemblement ouvrier en une gigantesque réserve alimentaire. Les loges, les balcons et le parterre deviennent de vastes entrepôts de stockage pour les troupes allemandes.
Le contraste est tellement saisissant. Le lieu conçu pour l'expression publique est cadenassé, militarisé.
C'est l'inverse de son but initial.
Il est réservé à l'usage exclusif d'une force d'occupation, au moment même où la population environnante subit les pires privations.
Et ces privations ont d'ailleurs poussé certains habitants à des actes d'une audace folle. L'article de Pierre Costecalde rapporte que, la nuit venue, quelques individus particulièrement courageux,
poussés par une faim désespérée,
prenaient le risque inouï de s'aventurer aux abords immédiats du bâtiment. Trompant la vigilance des sentinelles allemandes, ils s'introduisaient dans la maison du peuple pour y chaparder quelques précieuses provisions.
Il fallait oser.
Dans un quotidien rythmé par les tickets de rationnement et les pénuries chroniques, le moindre vol de nourriture au nez et à la barbe de l'occupant relevait autant de l'exploit de survie que de l'acte de résistance.
Heureusement, cette chape de plomb a fini par se soulever.
Oui. Au lendemain de la libération, l'édifice est enfin restitué à la population. Le soulagement général se traduit par un regain d'allégresse.
On imagine la joie des habitants. La normalité n'arrête pas le cours du temps.
Ni la dégradation physique des matériaux.
C'est inévitable. Le bâtiment, soumis à un usage intensif depuis 1905, commence à accuser lourdement le poids des décennies.
On assiste effectivement à la lente agonie de la structure. Le constat devient implacable à l'aube du nouveau millénaire. En 1999, l'état de vétusté de la maison du peuple est tel que les autorités n'ont d'autre choix que d'en prononcer la fermeture définitive au public.
Pour des raisons impérieuses de sécurité.
Les rideaux tombent, les portes se ferment.
Cette mise en sommeil forcée a déclenché un dilemme urbain majeur qui est longuement décortiqué dans les sources. Que faire d'un tel mastodonte patrimonial ?
C'est toujours une question épineuse pour les municipalités.
Les débats locaux se sont polarisés autour de deux visions. La première consistait à envisager des travaux de réhabilitation à minima.
Le strict nécessaire, quoi.
Voilà, juste pour sécuriser les normes et rouvrir rapidement les portes du théâtre traditionnel. Mais la seconde vision, beaucoup plus radicale, militait pour une restructuration totale.
Une refonte complète du projet.
L'idée était de repenser intégralement l'usage des volumes pour métamorphoser les lieux en un complexe culturel d'avant-garde.
Et c'est finalement cette seconde option, la plus ambitieuse, mais aussi la plus coûteuse et la plus longue, qui a prévalu.
Avec toutes les conséquences que ça implique.
Oui, des années d'attente interminables, la multiplication des études préalables et l'émergence inévitable de vigoureuses polémiques locales concernant le budget et les délais.
C'est le lot de tous les grands travaux publics.
Le chantier colossal, qui s'apparentait davantage à une démolition quasi complète, suivie d'une reconstruction, a été piloté par l'architecte montpelliérain Jean-Louis Michel.
Il a eu une approche très globale.
Son concept reposait sur une vision urbanistique intégrée. Il ne s'agissait plus seulement de refaire une salle de spectacle, mais de créer un véritable pôle culturel cohérent.
Qui englobait plusieurs structures.
Exactement. La maison du peuple, le musée Pégaï-Rolls adjacent et la maison Girard. Une démarche visant à redynamiser l'ensemble du quartier historique. Et après des années de travaux pharaoniques, le rideau se lève enfin sur le nouveau bâtiment, inauguré en fanfare en octobre 2006.
Un nouveau chapitre commence.
Et la description technique fournie par l'article laisse entrevoir une infrastructure à des années-lumière de l'ancienne cave du peuple humide.
Pas ça, le confort a dû changer du tout au tout.
Les visiteurs sont désormais accueillis dans un vaste bureau d'accueil couplé à une galerie d'exposition très lumineuse. La salle de spectacle, réputée extrêmement confortable, propose désormais 498 fauteuils.
Une belle jauge pour la culture contemporaine.
L'outil scénique a été pensé pour les productions modernes. Le plateau de scène affiche des dimensions imposantes avec 14 mètres d'ouverture pour une surface de 200 mètres carrés.
C'est un bel espace de jeu pour les artistes.
L'équipement intègre aussi une fosse escamotable pour les orchestres, une grande salle de répétition, logée en sous-sol, des loges modernes équipées de douches.
Fini la vétusté.
Et le complexe offre même le luxe d'une terrasse végétalisée surplombant l'ensemble.
La transformation fonctionnelle est totale, c'est certain, et l'outil est indéniablement adapté aux exigences culturelles modernes. Néanmoins, l'observation de ce nouveau complexe suscite une remarque patrimoniale importante.
Je vous écoute.
Du bâtiment originel, celui érigé dans la douleur en 1903, le projet architectural de 2006 n'a conservé en majeure partie qu'un seul élément.
La façade.
La façade historique majestueuse, oui, celle qui s'étire le long du boulevard Saint-Antoine. Cette décision de préserver la devanture permet de maintenir l'illusion visuelle de la continuité historique depuis la rue.
C'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que le bâtiment est toujours là, tel quel.
D'autant plus que cette muraille de pierre bénéficie aujourd'hui d'une mise en lumière nocturne extrêmement étudiée qui magnifie ses reliefs.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond, ce parcours chronologique un peu vertigineux, si méticuleusement retracé par Pierre Costecalde et illustré grâce au travail éditorial de Guy Mazard, démontre la profondeur historique d'un espace urbain?
Les bâtiments sont bien plus que des décors.
De la destruction initiale du jardin des pauvres, en passant par la ferveur des loteries de tomates et la rudesse des grèves gantières, jusqu'à l'occupation par la Wehrmacht et cette renaissance ultramoderne de 2006, l'histoire retient que les bâtiments publics opèrent comme de véritables éponges.
Une belle métaphore.
Les murs absorbent la sueur des luttes sociales, les échos des fêtes populaires, les traumatismes des guerres et les métamorphoses des politiques culturelles successives.
Cela soulève une question essentielle d'ailleurs.
Laquelle?
Pour n'en conserver que l'enveloppe extérieure, la coquille, est-ce qu'on sauve réellement l'âme du bâtiment?
Vaste question.
Ou bien est-ce qu'on érige une entité fonctionnelle totalement inédite qui se pare simplement du masque rassurant du passé? C'est le paradoxe éternel de la rénovation patrimoniale.
Une réflexion finale particulièrement stimulante. Ça invite vraiment à regarder l'architecture urbaine sous un jour nouveau, quand on y pense.
J'espère que ça fera réfléchir ceux qui nous écoutent.
C'est sur cette belle perspective que s'achève notre analyse détaillée du bulletin numéro 34 du Cartoclub Aveyronnais. Un grand merci à notre public d'avoir suivi cette incursion passionnante dans les méandres de l'histoire locale de Millau.
Merci d'avoir été avec nous.
Lors de la prochaine promenade en ville, il sera difficile de ne pas scruter les façades des vieux théâtres et des édifices municipaux avec un regard renouvelé.
En cherchant à deviner les tumultes, les secrets et les passions que cachent leurs murs de pierre.
Que tout le monde se porte bien, que la curiosité reste intacte, et à très bientôt pour une prochaine plongée au cœur des sources.